Écoutez-nous sur internet dw.com/français.
Bien sûr qu'elle continue à menacer les populations. Leur présence en elle-même constitue une menace dans les zones qu'ils ont colonisées, car il faut parler des petites colonies internes qui sont sous l'emprise des groupes armés, entre autres, des zones qui sont sous contrôle des aides de l'air. Ceux qui sont cantonnés ne constituent pas seulement une menace pour la population congolaise, mais ça constitue une menace pour le processus global de pacification de la sous-région, parce que de toute manière, il faut trouver, comment dirais-je, une solution durable. Donc, cantonner des gens comme ça, pendant plusieurs mois, maintenant ça va faire des années, sans savoir quelle est la suite, le cantonnement ne peut pas être une fin. Ça doit s'inscrire dans un processus, soit de rapatriement, soit de relocalisation, et la relocalisation ne peut pas se faire en interne, c'est-à-dire au Congo, parce que les populations congolaises disent non, mais vous ne pouvez pas balayer la saleté depuis Lubero et l'amener, par exemple, à l'Équateur. Donc ça, c'est pas trouver une solution durable. Il faut résoudre toute la question de leur présence et aussi, et je dirais même surtout, trouver une solution pour ceux qui sont encore en train d'errer dans les forêts congolaises et qui sont en train de faire une sorte de leadership informel mais très efficace dans certaines zones. Hein. Je pense pas seulement dans les territoires de Lubero, mais aussi dans celui de Masisi et de Rutshuru.
Oui, mais est-ce que vous ne trouvez pas anormal cette présence, surtout qu'il existe un moratoire sur le retour volontaire des ex-combattants FDLR qui sont cantonnés à Kanyabayonga, et le moratoire a expiré depuis le 20 octobre.
Oui, bien sûr, c'est anormal, mais ce n'est pas la seule anomalie. Donc, c'est pour ça que moi, je suis en train de mettre ça sur le plan global et régional, en disant, vous ne pouvez pas prendre des gens dans un processus qui a commencé en disant « bon, on va les cantonner ». On disait qu'après Kanyabayonga, ils iraient à Kisangani, et puis après Kisangani, les gens seraient rapatriés, d'autres relocalisés ou donc déplacés dans d'autres pays. Mais c'est comme si le processus était grippé et on ne sent pas d'avancer. Et ça semble être un problème soit oublié, soit casé. Donc, on dit, bon, écoutez, on n'en parle plus, mais le problème demeure et je conviens que c'est une anomalie de continuer à geler les problèmes au lieu de trouver des solutions.
Oui, on sait que la MONUSCO, la force de l'ONU en RDC, a apporté jusqu'à aujourd'hui un soutien au fonctionnement des camps dans lesquels sont cantonnés les ex-FDLR. Est-ce que la MONUSCO n'a pas un rôle important à jouer là-dessus?
Si on devait parler du rôle de la MONUSCO et de l'effectivité de son travail sur le terrain, mon cher, on passerait toute une journée en train de discuter. Bon. Je dirais, pour être honnête, que la MONUSCO essaie de jouer sa partition. Donc, elle joue son rôle, si vous voulez. Elle apporte un appui ponctuel ou chronique, pour parler comme les médecins. Mais donc, cet appui consiste, n'est-ce pas, à garder le processus un peu en vie, comme une sorte de perfusion externe, mais la solution ne peut pas provenir que de la MONUSCO. C'est-à-dire que la MONUSCO, nous avons tendance à lui faire porter tout le chapeau, mais moi, je continue à croire, pas seulement à penser, mais à croire que le FDLR, ce n'est pas juste un problème localisé, ponctuel, qui peut être évacué par les Tanzaniens ou les Uruguayens ou je ne sais pas qui de la MONUSCO, mais que c'est un problème qui doit être pris à bras le corps par d'abord la communauté sous-régionale. Donc c'est un problème transfrontalier. Le Congo ne peut pas le résoudre tout seul. Toutes les initiatives, toutes les stratégies ont montré leurs limites par rapport à trouver une solution innovative et durable plutôt que faire du colmatage. Donc, le travail de la MONUSCO, moi, je le place dans ce qu'on a, dans ce que j'appellerais le plâtrage, le colmatage. Donc, ils interviennent, ils peuvent régler les aspects ponctuels du problème de l'air, mais les aspects profonds qui sont politiques doivent être aussi assumés par les autres acteurs.
Alors, en résumé, qu'est-ce que vous demandez aux autorités congolaises pour que ces ex-FDLR puissent quitter la zone où ils sont cantonnés à Kanyabayonga?
Ça serait trop facile. Hein? Bon. Je suis persuadé que les autorités congolaises ont fait tout ce qu'elles ont pu. C'est-à-dire que ce problème est tellement complexe que seules les autorités congolaises ne peuvent pas le résoudre. Cependant, il y a bien des accords qui ont été signés, il y a des protocoles qui ont été ratifiés. Il y a un processus qui a été lancé et qui s'est bloqué, je dirais, au niveau de Kanyabayonga. Et donc, je demanderai aux autorités congolaises, ainsi qu'à toutes les parties prenantes, de relancer le processus pour ne pas pourrir cette situation. Parce qu'en effet, rester dans cette sorte de statu quo n'est pas une solution et ça constitue une menace réelle pour les populations de Kanyabayonga peut-être. Mais moi, j'ai dit, c'est pour la stabilité de toute cette zone qui touche aux frontières orientales de notre pays.